L'équipe de la Côte d'Ivoire enfermée dans un camp militaire sur ordre du président ivoirien après une élimination à la CAN. C'est un épisode lunaire qui remonte à l'an 2000. À la Coupe d'Afrique des Nations 2000 au Ghana, les éléphants sont humiliés par le Cameroun de Samuel Eto'o en finissant 3e de leur groupe. L'OM attend le retour d'Ibrahima Bakayoko, Bordeaux de Diabaté, Saint-Étienne de Gouël. Domoro joue à l'Inter et Bonaventure Kalou n'a pas encore posé ses valises à Auxerre. Après l'élimination, l'équipe ivoirienne doit repasser par Abidjan. Mais l'avion atterrit à Yamoussoukro, sur ordre du général Robert Gueye, nouveau président de la Côte d'Ivoire après un coup d'État. Direction une base militaire où les 22 joueurs sont retenus pendant 3 jours, avec un programme bien précis entre marche au pas, champ militaire et cours d'instruction civique. Le président Gueye débarque, suivi par des caméras.
C'est un premier avertissement.
Les joueurs sont en jogging.
Si prochainement,
ils ne bronchent pas.
Vous partez pour honorer le pays comme vous l'avez fait.
Ou ça fait peur.
Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire.
Ils sont humiliés à la télé ivoirienne. 2 ans plus tard, les Ivoiriens ne passent pas non plus le premier tour de la CAN 2002. Bah ouais, c'est juste avant l'avènement de Didier Drogba, mais personne ne fera son service militaire. Le général Gueye a été chassé du pouvoir avant d'être tué. 2 décennies plus tard, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN 2023 à la maison et les éléphants remettent leur titre en jeu. La Coupe d'Afrique 2025, ça se passe au Maroc. C'est maintenant l'occasion pour Golasso de vous raconter des histoires folles autour de cette compétition. Restons dans les années 2000 avec cette success story que tous les fans de foot de ma génération connaissent. On est à la CAN 2004 en Tunisie. D'un côté, Roger Lemaire, le sélectionneur de l'équipe de France, vainqueur de l'Euro 2000, désormais à la tête de la Tunisie.
Roger, tu me broies l'épaule.
Dans le camp d'en face, Guy Stéphan, qui avant d'être l'adjoint de Didier Deschamps, a été l'adjoint de Roger Lemaire chez les Bleus lors de l'Euro 2000. Guy Stéphan dirige l'équipe du Sénégal, qui a fait quart de finale à la Coupe du Monde 2002, les Lions de la Teranga d'Aliou Cissé et Eladji Diouf, avec Mamadou Niang en plus. On a ce Tunisie-Sénégal en quart de finale, et les Tunisiens arrachent une victoire 1-0, devant 60 000 personnes à Rhades, dans la banlieue de Tunis. Tout un pays est en délire et en demi-finale, c'est le Nigeria de JJ Okocha que la Tunisie élimine au terme d'une séance de tirs au but. La finale, c'est Tunisie-Maroc. Et c'est l'histoire de ce joueur brésilien qui offre le seul sacre de la Tunisie à la CAN de toute son histoire. Les aigles de Carthage ne sont plus les dindons de la farce. Francis Ledo Santos, c'est de lui dont il s'agit. Inscrit son 4e but de la CAN en ouvrant le score face aux Marocains dès la 5e minute. Le Maroc égalise par Youssef Mortari, la légende Nourdine Naïbet est encore là, et on a un arrière-droit nommé Walid Regragui et un Marouane Chamakh de 20 ans. Ziad Jaziri redonne l'avantage à la Tunisie dans une ambiance de dingue, et Ali Bounidjel tient bon. Ali Bounidjel, le gardien de 37 ans passé par Bastia. Ce n'est pas du football samba, mais ça suffit au bonheur de tout un peuple. Roger Lemaire devient ainsi le tout premier sélectionneur de l'histoire à remporter 2 compétitions continentales. L'Euro 2000 avec Zinedine Zidane, la CAN 2004 avec Selim Benachour en numéro 10. Francis Ledo Santos devient un héros. Je vous résume l'histoire de sa naturalisation. C'est simple, le Standard de Liège le repère au Brésil, mais le jeune avant-centre ne s'impose pas en Belgique. Son agent lui propose d'aller plus au chaud, en Tunisie, à l'Étoile du Sahel. Santos devient le buteur vedette du championnat tunisien durant 2 ans avant d'en faire de même à Sochaux. Et à Sochaux, son coéquipier Adel Chedli a une idée de génie. Francis Ludo, tu veux pas venir jouer en équipe nationale de Tunisie avec nous? Eh bah oui, Santos peut demander un passeport tunisien car son fils est né en Tunisie. Il y a déjà un Brésilien depuis 5 ans en sélection tunisienne, le latéral José Clayton. En tout cas, Roger Lemaire a justement besoin d'un renard des surfaces. Le mariage de raison est d'autant plus juste que Santos a déjà joué en attaque avec Jaziri à l'Étoile du Sahel. Les dirigeants de Sochaux sont furieux, menacent Santos de l'envoyer en réserve, mais le buteur ne cède pas au coup de pression. Le Brésilo-Tunisien s'envole pour la CAN 2004, il revient en légende de la Coupe d'Afrique. On n'a pas que des histoires incroyables sur le terrain avec la CAN. En 1993, on assiste à une immense tragédie, le crash de l'avion de l'équipe de Zambie. Tous les joueurs et les membres du staff sont morts sur le coup. C'est assez horrible ce que je vous raconte là. La Zambie, c'est un pays modeste, coincé au beau milieu de l'Afrique australe. C'est un pays qui tient sa richesse du cuivre. Et les Chipolopolo, le surnom des joueurs, ça veut dire les balles de cuivre. Au début des années 90, la Zambie est portée par une grande génération de joueurs. Les Zambiens ont mis un 4-0 à l'Italie au JO de Séoul 88 avec un triplé de Kalusha Boalia. Il est couronné Ballon d'Or africain cette année-là. Aucun autre joueur zambien n'a été élu meilleur joueur africain dans l'histoire. Kalou Boalia y joue au Cercle Bruges et rejoint ensuite le PSV pour côtoyer Romario. La Zambie a assez de munitions pour se qualifier pour le Mondial 94. Direction le Sénégal en éliminatoire avec deux escales au programme. Par souci d'économie, la sélection zambienne a l'habitude de prendre un petit avion prêté par l'armée qui est dans un mauvais état depuis plusieurs années et qui doit faire des escales pour remettre de l'essence. Au départ de Lusaka, la capitale de la Zambie, un jeune milieu de terrain et le troisième gardien sont écartés car il n'y a pas assez de place dans l'avion. Les deux joueurs échappent à un cauchemar sans nom. En repartant de son escale à Brazzaville, l'avion s'abîme en mer. Il plonge dans l'eau au large du Gabon. Les 25 passagers meurent sur le coup. Le moteur gauche de la carlingue s'est arrêté et le pilote fait une erreur. Il coupe le moteur droit, c'est le crash. Kalou Boalia n'était pas dans l'avion. Il devait partir depuis les Pays-Bas et les deux autres internationaux évoluant en Europe ne sont pas non plus du crash. Le choc est total en Zambie. Les corps, peu reconnaissables, sont repêchés et ramenés au pays pour des funérailles nationales. Le président de la Zambie demande à bâtir une nouvelle équipe. La fédération réunit 60 joueurs pour un programme spécial et le Danemark offre même un stage d'entraînement au nouveau groupe. Les Zambiens ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde 94, de peu, mais enchaînent avec la CAN 94. Ils battent la Côte d'Ivoire en premier tour, puis le Sénégal en quart et le Mali 4-0 en demi-finale. Les Chipolopolo avec Kalou Boalia, capitaine, ouvrent le score en finale contre le Nigeria. Mais Emmanuel Amunike renverse la situation pour sacrer les Super Eagles. Le destin rattrape toute la Zambie 20 ans plus tard. Kalou Boalia, président de la fédération, a nommé Hervé Renard à la tête de la sélection. À la CAN 2012, les balles de cuivre se hissent en finale. On est au Gabon. Avant la finale, Kalou Boalia emmène les joueurs sur la plage où ont été repêchés les corps des joueurs en 93. L'émotion est incommensurable. La Zambie résiste à la Côte d'Ivoire en finale. Didier Drogba envoie un pénalty sur la barre. Et les Zambiens d'Hervé Renard s'imposent au tir au but pour écrire l'histoire portée par ce souvenir douloureux qui a traumatisé tout un pays durant deux décennies. C'est magnifique. Hakuna Matata, pas de problème, comme on dit en Swahili. Le Swahili, c'est la langue parlée en Zambie. Remontons maintenant aux origines de la CAN. Je vous raconte une séquence assez scandaleuse. L'UEFA voit le jour en 54 pour organiser l'Euro et le président de la Fédé égyptienne propose la création d'une confédération africaine. Tollé au sein de la FIFA, les dirigeants européens sont contre. Plus globalement, les pays du vieux continent n'ont aucune envie de voir les peuples africains s'affirmer via le football alors qu'on est au début de la décolonisation. L'Égypte n'est plus sous domination britannique depuis 3 ans. Et il y a aussi le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud qui sont indépendants. Tous les autres pays sont aux mains d'une puissance coloniale européenne. La défaite de la France au Vietnam déclenche le mouvement des pays non alignés. Bref, les quatre fédérations africaines créent la CAF en 1957 et ils organisent direct une première Coupe d'Afrique au Soudan. Cette première CAN va se jouer à 3. Oui, parce que l'Afrique du Sud tient à venir avec sa sélection qui n'est composée que de joueurs blancs. Pas question pour les Sud-Africains de former une équipe multiraciale, hein ? Face au refus des trois autres fédérations, l'Afrique du Sud propose d'envoyer une équipe de joueurs noirs à la prochaine édition de la CAN. Ils sont pas sérieux. Bref, l'Afrique du Sud se retire. On est en pleine apartheid dans ce pays et le sport n'échappe pas à la ségrégation raciale. L'apartheid, c'est le régime raciste instauré par les Afrikaners, les descendants des colons néerlandais, français et allemands qui ont pris le pouvoir aux dépens des Britanniques. Sachez que l'Afrique du Sud n'a pas joué en 57 et n'a disputé aucune CAN jusqu'en 96. Faudra attendre la fin de l'apartheid, après la libération de Nelson Mandela en 91, pour avoir une fédération de football réunissant tous les joueurs du pays en 91 seulement. Assi Bonanga, c'est une chanson dédiée à Mandela. Sachez aussi que sur ce dossier, la FIFA est scandaleuse. Le président de la FIFA, Stanley Roos, un Anglais élu en 1961, veut l'Afrique du Sud à la FIFA. Il dit que le football ne doit pas se mêler de la politique. Enfin quand même, Stan, il est question d'un crime contre l'humanité avec l'apartheid. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 66, l'Afrique est invitée et les 14 pays africains décident d'un boycott. C'est la honte internationale. Le Brésilien Jean Avelange, soutenu par le roi Pelé, part en campagne pour la présidence de la FIFA. Il promet l'exclusion définitive de l'Afrique du Sud et affirme que le sport a le pouvoir de changer le monde.
Sport.
Nelson Mandela.
Has the power to change the world.
Le sport a le pouvoir de changer le monde.
It has the power to inspire.
Il a le pouvoir d'inspirer.
It has the power to unite people.
Il a le pouvoir d'unir les gens.
In a way that little us does.
Comme peu d'autres choses le font. Jean Avelange est largement élu en 1974. Les fédérations africaines sont au nombre de 37 à ce moment-là et on aura une deuxième place pour l'Afrique au Mondial 82. Bon allez, une dernière histoire à vous raconter, même s'il en existe bien d'autres évidemment. Je vais faire plus vite car c'est une histoire qui remonte à peu. C'était à la CAN 2021 au Cameroun. Pour le 8e de finale entre le Cameroun et les Comores sont obligés de faire jouer un défenseur dans les buts durant tout le match. On est en plein Covid, l'équipe du Comore est ravagée par les cas de Covid avant ce 8e de finale contre le pays hôte. Ali Hamada et sa doublure ont le Covid, le troisième gardien est blessé. Le staff des Comores fait un entraînement pour voir qui est le meilleur au but. Personne ne se détache, sauf peut-être un peu Chaker à la dure. Finalement, l'entraîneur choisit parmi les remplaçants un joueur d'expérience. C'est Chaker à la dure, qui a 30 ans, mais qui fait 1m72. Le natif de Nantes, formé chez les Canaries, n'a jamais joué au but, même pour s'amuser à l'entraînement. Le jour du match, Hamada n'est plus positif, mais la CAF impose une période d'isolement. En arrivant au stade, les Comoriens pensent encore qu'Ali Hamada sera autorisé à disputer la rencontre. Chaker à la dure, alors lui, il refuse d'ailleurs de s'entraîner comme un gardien, il s'échauffe avec tout le monde. Sauf que les caméras télé commencent à ne filmer que lui. C'est génial. Encore mieux, à la dure doit jouer avec l'un des maillots des gardiens, mais floqué de son numéro 3. Alors le staff lui fait un 3 en collant du ruban sur le maillot numéro 16. Chaker à la dure, aucune minute à la canne, le voilà gardien de but d'un 8ème de finale. Il prend un premier but de Karl Toko Ekambi. Son équipe se retrouve à 10. Mais les Comores tiennent à la faveur de plusieurs parades du petit gardien de fortune. Aladur est en feu comme soprano le plus connu des Comoriens de France. Deuxième but camerounais à la 71e minute, fin de la folle aventure. Chaker Aladur le raconte dans son foot. De retour à Nantes, il est un inconnu alors qu'il est désormais l'idole de son village aux Comores. On espère encore d'autres folles histoires de ce genre durant les prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Je vous raconterai ça dans Go La So.
Go La So, le podcast football de sports.fr.